Timinoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Bintiminoudi, le rendez-vous politique de RCFM, avec aujourd'hui comme invité Gilles Simeoni, le président de l'exécutif de Corse. Gilles Simeoni, bonjour.
Salut.
Beaucoup de choses au menu de ce Bintiminoudi, président de la collectivité unique. Vous êtes en effet au centre de quasiment toutes les problématiques insulaires. Nous parlerons de ce regain de violence que connaît la Corse depuis la fin de l'été et de l'émotion qu'il suscite, notamment après l'assassinat de Maxime Souzigne, un climat délétère auquel s'est ajouté l'annonce de la création d'un nouveau FLNC. Au menu aussi les déchets, une histoire sans fin, les relations avec l'État toujours aussi compliquées, les relations au sein de la majorité territoriale, qui ne le sont pas moins, et enfin les municipales. Mais avant, Gilles Simeoni, une question sur l'échouement de ce navire sur une plage de Bonifacio. Dans la nuit de samedi à dimanche, tout risque de pollution semble écarté. Cela dit, que peut-on faire au niveau de la prévention, au niveau de la réglementation, pour éviter qu'une catastrophe écologique ne survienne un jour ?
Alors très rapidement, avant de répondre à votre première question, un mot de solidarité avec les Catalans qui ont été condamnés à de très lourdes peines de prison. Un mot aussi pour dire que cette condamnation est une honte pour l'Espagne.
Qu'elle est à mon avis, des peines pourront aller jusqu'à 13 ans de prison.
Jusqu'à 13 ans de prison pour avoir organisé un référendum, fut-il illégal. Je crois que c'est un véritable scandale. C'est une régression pour l'Espagne, c'est une régression pour la France qui a cautionné ce procès, et c'est une régression pour l'Europe qui ne l'a pas dénoncé. Alors, en ce qui concerne l'échouage du bateau à Bonifacio, d'abord, première réflexion, la catastrophe a été évitée de justesse une nouvelle fois, tant mieux. Mais jusqu'à quand la chance va-t-elle durer ? Donc, première priorité, s'assurer qu'il n'y ait pas de pollution. Deuxième remarque, d'ordre formel, vous m'avez confirmé tout à l'heure que Madame la ministre de l'écologie allait venir en Corse cet après-midi. Je note avec surprise relative, que depuis l'incident, ni la préfecture maritime, ni le cabinet du ministre n'ont jugé utile de prendre attache avec le conseil exécutif de Corse, dont acte. François Sargentini y sera sur place cet après-midi. J'ai appelé bien sûr Jean-Charles Orsouch. Deuxième phase, il faudra réfléchir à durcir encore les conditions de navigation, notamment dans les bouches de Bonifacio.
Vous plaidez pour une interdiction encore plus importante ?
En tout cas, il faut à l'évidence
restreindre
et sécuriser plus fortement. Et puis, il faut également enfin décider, puisque déjà lorsqu'il y avait eu le Costa Concorde qui s'était échoué, nous avions insisté sur la nécessité d'engager une réflexion sur l'implantation en Corse de moyens maritimes sérieux de lutte contre les pollutions. Nous avions pointé qu'il fallait plus d'une dizaine d'heures en cas d'incident pour arriver sur place. Ça a encore été le cas avant-hier. Donc là, véritablement, il y a un risque majeur. Donc j'espère qu'il y aura une vraie discussion sur ce point avec les autorités qui reste compétente, c'est un pouvoir régalien, voire international.
Donc des moyens sur place.
RCFM, Bintiminoudi, l'émission politique.
Gilles Simeoni, 10 homicides depuis le début de l'année, des incendies à répétition, d'engins de chantier, de restaurants, des intimidations de tout genre, la création de deux collectifs anti-mafia, un nouveau FLNC, bref, un climat délétère. Lors de vos différentes interventions depuis, vous avez affirmé, je cite, qu'il ne peut y avoir d'autre chemin pour la Corse, notamment dans sa lutte contre les dérives qui la minent, que celui de la démocratie réelle. Sous-entendez-vous qu'il y a le risque aujourd'hui de sortir de ce chemin, le risque notamment d'une reprise de la lutte clandestine ?
D'abord, une situation, vous l'avez rappelé, qui est extrêmement inquiétante. Ensuite, qui n'est pas surprenante, parce qu'on a bien vu que les ingrédients principaux de cette recette dramatique qu'hélas nous connaissons bien depuis des décennies étaient en train de se réunir. Ce n'est pas faute de l'avoir dit et de l'avoir dénoncé. Et enfin, plus que jamais, mais avec une conviction inébranlable, je dis et je répète, qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui de la démocratie comme méthode et comme objectif.
Vous martelez ce message parce que vous percevez aujourd'hui ce risque-là ?
Il y a clairement ce risque. D'abord, c'est un message qui va vers celles et ceux qui ne respectent pas la démocratie. Ceux qui incendient, ceux qui menacent, ceux qui assassinent. Il y a toujours eu des forces occulte ou criminelle dans toutes les sociétés. L'important, c'est qu'elle reste à la marge et qu'elle n'en devienne jamais le centre. Si aujourd'hui, cette tendance devait exister en Corse, alors oui, il faudrait que l'État, qui a les compétences régaliennes, les exerce pleinement et de façon loyale, ce qui, pendant des décennies, n'a pas été le cas.
Justice et police.
justice et police. Une justice et une police qui ont été, on le sait, souvent instrumentalisées, uniquement déployées contre les nationalistes, quelquefois même avec des manipulations barbouzardes. Et puis, il y a aussi la responsabilité de la société corse. La société corse, elle doit sécréter les propres anticorps qui vont permettre de lutter sur le court, sur le moyen et sur le long terme. C'est un chemin qui est long, c'est un chemin qui est difficile, mais il ne peut pas s'accommoder de réactions qui soient des réactions, soit de légitime défense, soit de retour à la clandestinité. Je le dis avec une force absolue, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Celles et ceux qui croient, ou qui font semblant de croire, ou qui laissent croire qu'il peut y avoir un chemin d'espoir dans le recours à la violence, fut-elle présentée comme défensive, ou dans le recours à la clandestinité, sont des gens qui n'ont pas compris, qui ne veulent pas comprendre les terribles leçons que nous ont infligées les années et les décennies qui ont passé. Donc moi je dis à tous les Corses, mais particulièrement aux jeunes, il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui de la démocratie, ce qui ne veut pas dire le renoncement. J'ai entendu mon ami Paul-Félix Benedetti l'autre jour citer Gandhi, d'ailleurs de façon incomplète. Gandhi disait la lâcheté, la violence, je choisis la violence. Sauf que Gandhi ne disait pas ça. Gandhi disait, s'il n'y avait de choix qu'entre la lâcheté et la violence, je choisirais la violence. Aujourd'hui, il y a un autre choix. Le choix, c'est celui du courage, ni violence, ni lâcheté. Le choix du courage, le courage de la paix, le courage de la démocratie, le courage de dire non aux forces criminelles ou mafieuses, et le courage de proposer aux Corses et notamment à la jeunesse un chemin qui soit celui de la démocratie, de la liberté, de l'émancipation, de l'espoir et de la vie.
Gilles Simeoni, vous présidez la CDC, qui est le principal donneur d'ordre en Corse, avec des marchés parfois de plusieurs dizaines de millions d'euros qui forcément aiguisent des appétits. Subissez-vous des pressions, disons, intéressées ?
Tout donneur d'ordre aujourd'hui en Corse peut subir ou subit des démarches qui peuvent aller de la sollicitation plus ou moins amicale à la pression explicite. Moi, je pense qu'il faut répondre à cela par une logique totalement vertueuse, c'est-à-dire d'abord fixer des règles, ensuite les faire appliquer, veiller à ce que, en permanence, eh bien, les instructions que l'on donne en la matière soient strictement respectées, et puis ensuite que la police et la justice fassent leur travail.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez subi, vous subissez des pressions, même insidieuses.
Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas eu de pression ni de menace. Si je devais en recevoir demain, j'y ferais face tout simplement avec la sérénité que confère la certitude d'être sur le chemin de l'honnêteté et sur le chemin que m'ont demandé de prendre et de suivre les Corses à travers leur vote et à travers le suffrage universel.
Êtes-vous protégé ou en tout cas prenez-vous des précautions particulières pour assurer votre protection ?
Je ne prends pas de précautions particulières pour assurer ma protection. Je ne voudrais pas que ce soit une invitation pour d'éventuelles personnes qui penseraient à me faire du mal. Ceci étant, je suis très déterminé. Je n'ai pas vocation à subir de pression. Je n'ai pas vocation non plus à me laisser menacer. Mais encore une fois, la meilleure protection, c'est celle que confère le peuple.
Dernière question sur ce sujet. Vous avez annoncé une session de l'Assemblée de Corse extraordinaire consacrée à la violence. Elle aura lieu quand ?
Elle aura lieu dans les toutes prochaines semaines. Je pense qu'il est important que cette session soit utile et efficace, qu'elle serve à autre chose uniquement qu'à des constats qui ont depuis longtemps été faits ou à des déclarations de principe. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, elle doit être préparée en concertation étroite avec les collectifs qui se sont créés
et
élargie à l'ensemble des forces politiques, y compris celles qui ne sont pas représentées au sein de l'Assemblée de Corse, et à l'ensemble des forces vives de ce peuple.
Merci.
20 minutes, Patrick Vinciguerra.
On continue, autre dossier brûlant, les déchets à Condomaï. Il y a une semaine, la préfète de région, Josiane Chevalier, dans un courrier, vous demandait à vous et au président des Interco de trouver des solutions rapidement pour éviter une crise sanitaire et environnementale majeure. Le ton était plutôt comminatoire, mais sur le fond, n'a-t-elle pas raison ? Que lui répondez-vous ?
La préfète a raison, comme nous avons tous raison, de dire que, premièrement, la situation actuelle est une situation grave, une situation qui peut devenir rapidement une situation de crise majeure. Et deuxièmement, il faut trouver ensemble des solutions qui soient des solutions efficaces. Ce constat étant posé, vous avez relevé que je me suis abstenu de réagir à chaud au courrier abondamment diffusé de Madame la préfète. Moi, je vais dire très simplement ce que je pense de la forme et du fond. Sur la forme, je pense que cette façon de procéder n'est pas normale. Premièrement, lorsqu'on écrit à un interlocuteur, on ne distribue pas la lettre. Deuxièmement, dans ce courrier, la préfète
elle
fait semblant...
Elle avait été envoyée à tous les présidents d'Interco, donc bon, il y avait des chances pour qu'elle fuite.
Il y avait de fortes chances pour qu'elle fuite, et je pense même que l'on espérait et qu'on voulait qu'elle fuite. du côté de la rédactrice. Deuxièmement, c'est une lettre qui est mal dirigée. Lorsque la préfète s'adresse au président du conseil exécutif, comme si c'était à lui, par exemple, d'organiser la collecte ou à lui d'organiser le traitement. Je vous rappelle que moi, je ne cherche pas à dédouaner la collectivité de Corse. Le problème des déchets, on en sortira tous ensemble ou on en pâtira tous. Mais je rappelle que si demain, il y a des difficultés de collecte, ce n'est pas un problème de la compétence de la collectivité. Par contre, notre responsabilité, c'est d'aider les intercommunalités. Si le CIVADEC, qui a une difficulté pour trouver des sites, n'y arrive pas, ce n'est pas notre compétence de le faire. Mais on va aider le CIVADEC parce qu'on en a besoin.
C'est vous, la CDC, qui a élaboré
le plan
régional.
Nous avons élaboré un plan, et un plan avec lequel tout le monde est d'accord, y compris la préfète, y compris les intercommunalités,
oui, mais,
y compris
mais le CIVADEC. Un plan qui, depuis mai 2016, n'a pas avancé d'un pouce.
Il a avancé de façon significative, notamment sur le tri.
Par exemple,
il
oui, mais pas, le choix des centres, c'est là où l'urgence se situe, l'urgence aujourd'hui.
Il y a une urgence absolue. Je vous rappelle que, y compris de façon très pragmatique, j'ai proposé, pour le compte du conseil exécutif de la collectivité de Corse, d'envisager un scénario qui n'était pas celui qui était privilégié, notamment par le CIVADEC, c'est-à-dire d'aller vers des centres de stockage des déchets qui soient de dimension plus réduite à l'échelle de quelques territoires. Et que les intercos et les territoires avaient dit, dans ce cadre-là, nous allons essayer d'avancer.
Pour l'instant, il n'y a pas eu de retour. C'était en février 2019.
Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas eu de retour. Est-ce qu'il faut pour autant, aujourd'hui, changer de cheval au milieu de la course? Ce que s'apprête à faire la préfète? Moi, je dis non. Parce que ce que s'apprête à faire aujourd'hui la préfète, qu'est-ce qu'elle dit en fait? Elle dit, nous renonçons au plan, nous renonçons aux objectifs, nous donnons de facto la gestion des déchets à des personnes privées. Alors moi, je le dis encore une fois très clairement. Moi, je n'ai aucune animosité de quelque sorte que ce soit, ni avec l'exploitant actuel de Viggianello, ni avec la société qui a obtenu devant le tribunal une autorisation d'exploiter un centre. Ceci étant, moi je dis que demain, aujourd'hui et demain, la gestion des déchets en Corse doit relever de la maîtrise de la puissance publique. À un moment donné où on s'interroge sur les flux d'argent, à un moment donné où on s'interroge sur les situations de monopole, à un moment donné où on s'interroge sur les équilibres économiques à trouver, notamment dans la gestion des déchets, en Corse et ailleurs. Nous disons, il faut la maîtrise publique de cette affaire parce que nous sommes une île.
Oui, mais ça n'avance pas.
Excusez-moi. Et nous ne pouvons pas nous remettre entre les mains d'un, deux ou trois opérateurs privés. Actuellement, en n'avançant pas sur les propositions que nous avons faites, et je m'adresse à tous les Corses, à toutes les intercommunalités, je m'adresse aussi aux citoyens qui ne veulent pas de centres de stockage près de chez eux. Nous proposons un plan global avec des centres de stockage qui seront gérés par la puissance publique, qui seront de taille limitée, qui viendront alors que le tri et le surtri et la limitation des déchets auraient été faites, c'est-à-dire des conditions minimales et des conditions qui soient confortables pour les gens. Si nous n'arrivons pas à mettre en place ce plan, ce qui va se passer, c'est ce que commence à faire Madame la préfète. Le préfet ne fait pas appel, vous l'avez noté, le préfet ne fait pas appel. Il a dit au collectif Tavignan qu'il ne ferait pas appel. Pourquoi ne fait-il pas appel? Parce qu'il veut que la société puisse exploiter à Joncage. Nous ne voulons pas.
Mais justement, en ne voulant pas de Joncage, en ne voulant pas de Viggianello 2, comment allez-vous convaincre d'autres d'accepter de dire oui? Je pense notamment à Moltifao.
Nous avons un plan qui est très clair. S'il faut le renforcer, s'il faut mettre d'autres moyens, ça sera les objectifs de la réunion que je compte solliciter avec toutes les parties prenantes autour de la table. Nous disons, il faut limiter l'entrée des déchets en Corse. L'économie circulaire, proposition de loi qui sera portée par nos trois députés, j'espère le quatrième, Jean-Jacques Ferrard. Deuxièmement, il faut un tri généralisé et nous allons aider les intercommunalités parce que nous savons les difficultés. Troisièmement, des usines de surtri. Quatrièmement, du stockage. Le stockage, il faut que ce soit la puissance publique. Le stockage, il faut des centres à l'échelle que nous déciderons, nous. Et si nous ne le faisons pas, c'est la porte ouverte pour la gestion par des intérêts privés, antagoniques, ou qui peut devenir antagonite de l'intérêt général et de la vision stratégique que nous portons. Donc nous disons, il faut se mobiliser, mais ce n'est pas à travers des petits coups bas ou des calculs d'apothicaire qu'on fait les lettres qui fuitent ou renvoyer la responsabilité vers la collectivité, y compris lorsque ce n'est pas de son fait qu'on y parviendra. Nous restons déterminés à agir, à avancer avec tout le monde, en ayant conscience d'un problème extrêmement difficile qui n'a jamais été solutionné en 40 ans. Depuis 3 ans, nous y travaillons. Nous avons des perspectives de sortie.
Le temps passe vite, 4 ans. Et on attend aujourd'hui des résultats. Deux mots, Gilles Sémillone, sur les questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme. Un nouveau PLU est passé à la trappe la semaine dernière, celui de Propriano et partiellement celui de Cisco, suite à un recours du Levante. Écoutez ce que disait Michel Salotti, une des représentantes de l'association, juste après la décision du tribunal administratif.
Un grand regret, c'est que ni la CTC ni l'État ne sont allés au TA, c'est-à-dire qu'ils laissaient les illégalités perdurer et les constructions se réalisaient sur des terrains constructibles. Il y a quand même 5 zonages très importants annulés. Et bien là aussi, pas d'action, ni de la CTC, ni de l'État.
C'est les autorités qui laissent faire, à votre avis, ou complicité carrément?
Bah écoutez, il faudra leur demander, mais en tout cas qu'ils aient laissé faire, c'est sûr, puisqu'ils n'ont pas été au TA. Donc, on peut aussi imaginer qu'ils sont d'accord avec ce type d'urbanisation illégale. Apparemment, on ne les voit pas aller en justice, on ne peut pas considérer qu'ils sont contre.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Gilles Sémillone, que répondez-vous à Michel Salotti qui, en quelque sorte, vous accuse de complicité passive?
J'ai beaucoup d'amitié pour Michel Salotti à titre personnel et beaucoup de respect pour le travail considérable qui est mené par elle et par son association. Ceci étant, je le dis et je le répète, eux sont dans une logique associative, nous en sommes dans une logique institutionnelle. Beaucoup de maires nous reprochent d'être trop exigeants, d'être trop dur avec leur projet de PLU, avec leur vision de l'aménagement du territoire. Nous essayons de défendre l'intérêt général. Et je dis une fois encore que ce travail d'accompagnement qui est fait par les AIE, lorsqu'il y a des problèmes de légalité, le contrôle de légalité est exercé par l'État. Si demain on veut changer les règles...
On est d'accord, mais vous pouvez, vous, la CDC, vous conseillez de participer
et
parce
fait,
qu'ils ont le sentiment d'être abandonnés en race campagne.
Oulewant n'est pas abandonné en race campagne. Oulewant ne subit pas seule la pression. Nous avons toujours été à ses côtés, à côté de cette association comme des autres. Et nous continuerons à l'être, et notamment lorsqu'il y a des pressions.
Mais pas devant les tribunaux.
Eh bien, je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit, lorsqu'il y a des cas extrêmement graves, parce que c'est...
Il y a le cas du Mizing, vous y étiez.
Nous étions partie civile au Mizing, ce qui est une première pour une collectivité. Mmh. Et je n'exclus pas de l'être, y compris dans des cas où des infractions ou des manquements à la règle, notamment au PADUC, seraient caractérisés. Mais une fois encore, je ne veux pas me laisser attraire dans un jeu institutionnel qui n'est pas celui qui est organisé actuellement par la loi. Le contrôle de légalité, c'est l'État. Si l'État n'exerce pas le contrôle de légalité, il est défaillant. Si l'État souhaite, comme nous le souhaitons, que nous puissions exercer, nous, le contrôle de légalité, on change la loi et on me donne le moyen d'exercer le contrôle de légalité.
Allez, on poursuit.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
Il nous reste quelques minutes, dernière partie, les municipales. La rumeur vous annonce en bonne place, Gilles Sémillone, sur la liste que conduira sans doute Pierre Saville. Vous confirmez?
Je pense qu'à Bastia comme ailleurs, l'heure n'est pas venue à composer les listes. À Bastia comme ailleurs, l'heure est au projet.
Et là, c'est au-delà de la composition, savoir si vous serez sur la liste ou pas, c'est quand même important.
C'est une réponse qui viendra en son temps. Moi, je voudrais parler de façon générale des municipales.
Mais pourriez-vous l'être sur cette liste, sachant que vous êtes président de la CDC, président de la Chambre des territoires, président de l'Association des îles méditerranéennes occidentales, et que depuis 2016, vous n'avez jamais siégé au conseil
tout
municipal
à fait,
de Bastia.
Et vous savez également que je me consacre tellement à ces fonctions, et je suis fier de pouvoir les exercer, que j'ai également renoncé totalement à mon exercice professionnel, et ce depuis le premier jour où je suis devenu maire de Bastia. Je me consacre tout entièrement défense de l'intérêt général.
Dans ce cas, quelle serait l'utilité d'être sur une liste?
Et lorsque viennent les dossiers de Bastia à la collectivité de Corse, je les regarde bien sûr avec attention, mais je traite Bastia comme je traite toutes les communes et toutes les régions de Corse. Donc, si je devais être présent sur une liste à Bastia, ça serait une manifestation de mon attachement pour cette ville.
Le soldat Saville?
Absolument pas. Je ne pense pas que le soldat Saville ait besoin d'être sauvé. Moi, ce que je pense, c'est qu'à Bastia comme ailleurs, il faut construire des démarches qui soient des démarches articulées avec nos fondamentaux, qui soient des démarches de respiration démocratique, des démarches qui fassent converger des forces, des femmes et des hommes autour d'une logique de projet. Ce qu'on a commencé à faire il y a 10 ans. À l'époque, nous l'avions fait dans l'opposition. Ensuite, les Corses ont essayé de nous faire confiance. Je crois que plus que jamais, c'est ce cap-là qui est le bon.
Donc on aura la réponse sur votre participation ou non dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Toujours à Bastia, Corsica Libre la semaine dernière a une nouvelle fois appelé à l'union, ne se faisant guère d'illusions, avec des mots assez durs à l'encontre de FEM, parlant de positions aberrantes. Ça ressemblait à un avertissement. Que répondez-vous à vos partenaires de la majorité territoriale?
D'abord que la situation de la Corse, de façon générale, et a fortiori depuis quelques semaines, est compliquée, qu'elle peut même devenir de plus en plus grave, et que donc notre responsabilité de citoyens, de militants, mais également et surtout de responsables qui sont aujourd'hui en charge de conduire les affaires et les décisions de la Corse, nous impose de garder la lucidité. Donc moi, je ne vais pas polémiquer avec mes partenaires de la majorité. Ceci étant, j'ai vu effectivement cette conférence de presse qui avait un ton très dur, qui avait des critiques fortes, notamment contre le discours de Loupine. Moi, le discours de Loupine, je n'ai fait que répéter avec sincérité et sérénité.
Contre votre discours prônant l'ouverture plutôt que l'union.
Ce que nous avons dit aux Corses, ce que nous leur avons dit en 2015, et qui les a conduits à nous mettre en situation de responsabilité, et ce que nous leur avons répété ensemble en 2017, ce qui les a conduits à renforcer leur confiance, à savoir que nous étions fidèles au fil historique du combat qui est le nôtre, pour la défense de ce peuple, mais qu'en même temps, cette Corse que nous voulons, nous allons la construire avec tous les Corses qui ont envie d'avancer. Et moi, je reste persuadé que c'est ce chemin-là qu'il faut continuer à prendre. Si mes partenaires considèrent que ceci est un reniement, je leur laisse la responsabilité de cette critique. Mais moi, je considère non seulement que ce n'est pas un reniement, mais que c'est l'exacte continuation et l'exacte mise en application des engagements que nous avons pris entre nous et que nous avons pris devant les Corses.
L'absence d'union assez municipale qui se profile pourrait-elle altérer les relations au sein de la majorité territoriale, effectivement, où l'on sait déjà que ce n'est pas le grand amour entre les différents partenaires?
Il y a un certain nombre de difficultés aujourd'hui, les Corses le savent.
On les a ressentis notamment sur la discussion du plan où on a gaz avec tout.
Notamment. Moi, je suis président du conseil exécutif. J'ai conduit la liste que nous avons constituée ensemble. J'ai pris au nom de cette liste des engagements. Les Corses nous ont fait confiance. Nous devons donner des signes qui permettent aux Corses d'être certains qu'ils ont eu raison de nous faire confiance.
Donc c'est une sorte d'appel à l'apaisement. Dernière petite question, quel regard portez-vous sur la situation à Porto Vecchio où Jean-Christophe Angelini du PNC et Cossiga Libre, vos partenaires donc à la majorité territoriale, discutent apparemment avec la majorité sortante de Georges Mail?
Alors là aussi je vais être très clair. Premièrement, je n'ai pas été associé à ces décisions et à ces discussions, donc je ne sais pas ce qu'est leur contenu, donc je ne vais pas me prononcer sur le fond. Deuxièmement, si j'étais taquin, je dirais que d'un côté, on me reproche de ne pas être suffisamment fidèle aux fondamentaux et de l'autre, on envisage de façon apparemment surprenante une union au premier tour avec Georges Mail. Et troisièmement, avec tout le respect que j'ai pour Georges Mail, je ne me prononcerai pas à ce stade, mais je pense qu'il faut construire des démarches larges, certainement, essayer de les construire à partir des partenaires de la majorité territoriale, en élargissant beaucoup et en essayant d'être dans une cohérence d'ensemble.
Eh bien, ce sera là notre conclusion. Gilles Siméon, nous avons un peu de retard. Merci d'avoir répondu à nos questions. 20 minutes, c'est court. Il y aurait pu en avoir beaucoup d'autres. Donc, ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup.
Grazie.
20 minuti. Patrick Vinciguerra.
Voilà une émission à écouter ou réécouter ce soir de 18h10 à 18h30 sur RCFM et quand vous le voulez sur notre site. Encore une fois, merci.